50 années de création derrière.
Plus que ça.
Plus que ça.
Ah oui, j'ai démarré à 18 ans. Donc,
D'accord.
Okay. Bon, bref, enfin bon, je faisais des trucs un peu. Ah oui, c'est bon.
Ça y est, c'est l'imprimante. Ah,
je crois que ce n'est pas pour me couper du doigt. Ouais, alors, pardon.
Oui, et donc vous êtes très éclectique, vous avez été photographe au tout départ.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Après, vous avez fait l'illustration, vous avez fait des films d'animation.
Bien sûr, des CD-ROM, des séries, un film pour la télé, pour la BGE, le clip de Scheller, d'autres trucs. Là, je me suis aperçu d'ailleurs dans le clip de Scheller, c'est que c'était un milieu très précis que je faisais. C'était Mondino. Et c'était pas du club. On a eu une victoire de la musique. Ça a duré un an. On a ramassé 7 ou 8 prix partout en Europe. Et Mondino a fait une grande soirée un an et demi après avec les meilleurs clips des 10 dernières années. Il n'y avait pas l'image de cette vidéo. J'étais pas du club. Ça existe. Hein. Et même quand j'ai fait les affiches de films. Bon, maintenant c'est fini parce qu'il n'y a plus de frais pour qu'ils font une Photoshop à fond les pièces. Et ils disaient, qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier de ne pas de cette frais, c'est le DD. C'est un copain Jean-Jacques Anneau, on a travaillé ensemble, je ne me suis pas posé cette question. Ça, c'est des clivages parisiens, on connaît. Et après de Scheller, j'ai eu une tonne de demandes, et elles ont été toutes zigouillées les unes après les autres.
Est-ce que c'est ce que vous avez. Vous avez contribué à. Vous êtes assez iconoclaste dans la façon dont vous avez repensé la page de la BD.
Bien sûr.
Est-ce que ça, par exemple, ce milieu un peu réseau parisien, vous auriez envie que ça bouge pour que les.
Donc il y a des trucs où on fait l'honneur de me dire que il y a de l'avant-druyer et de la plaidruyer, ça on en a rien à foutre. J'ai fait des petits, bon, j'ai changé l'idée de la mise en page parce que je venais aussi du cinéma et tout ça, et pour moi les doubles pages étaient des écrans de cinéma, et je trouvais qu'on pouvait faire une narration de bande dessinée différente, d'une façon naturelle, étant nourrie, parce que même si j'ai attaqué la peinture, la sculpture, la décoration avec Rothschild, le mobilier, tout le bordel, des tonnes et des tonnes de trucs, je reste un auteur de BD, j'en suis fier, je me suis battu pour ce métier, et je suis un enfant d'Astérix. S'il n'y avait pas eu Goscinny, il n'y aurait pas eu Druyer. Donc il y a ça, c'est parfaitement clair. Pour le reste, c'était quoi la question ?
Est-ce qu'il y a d'autres cadres que vous auriez envie de faire
On a tous envie de travailler sur des choses nouvelles et différentes. Bon, le temps passe, on ne sait pas très très bien. Mais je voulais dire autre chose, je suis très crevé aujourd'hui, je suis épuisé. Il faut que j'assure ce soir, ça ne va pas être facile. Mais bon, ce qui se passe aujourd'hui maintenant, c'est que la bande dessinée, voilà ce que je voulais dire, est un milieu tout à fait créatif et merveilleusement créatif. Donc, l'expression actuelle de la BD est plus le roman graphique. Moi, je suis un fan de Henriette Satouf, c'est absolument sublissime, c'est merveilleux. Ça, c'est étonnant, donc on n'est pas obligé de faire des grandes aventures cosmiques. Je suis désolé, la bande dessinée est enfin reconnue après 40 ans de combat auxquels j'ai participé comme un malade, moi et d'autres, et nous sommes enfin reconnus, c'est formidable. Il a fallu se battre. Simplement, à l'époque, nous ne sommes pas aux États-Unis. Aux États-Unis, la bande dessinée est ancrée dans la culture, dans les plus grands jours. Nous, en France, tout le monde lisait la BD, il ne fallait pas le dire. Donc maintenant c'est rentré dans les mœurs, et que ce soit France Inter ou toutes les émissions, maintenant il y a la rubrique littéraire, la rubrique cinéma et la rubrique bande dessinée, c'est vachement bien. Donc voilà, mais ça a été un combat, on était des débiles, y compris pour Arthurie et compagnie, y compris pour tous ces gens qui étaient des iconoclastes et des génies. GB était un génie, Rezer était un génie, la mort de Cabu et de Georges, jamais je pourrais m'en remettre, c'était mes potes. Donc voilà quoi, nous sommes arrivés enfin à nous faire reconnaître, et à quel prix, et pourquoi le prix est un peu lourd à payer, quoi. Ça c'est clair. Quoi.
Pourquoi vous dites que le prix est lourd à payer?
Ben, quand on tue Georges et puis d'autres, Charles et puis.
D'accord, pas Charles et tout. Okay.
Parce que c'est pas de la bande dessinée, si Volinsky en faisait, mais c'est le dessin politique qui est prodigieux, c'est encore un autre métier. Pétillon est merveilleux, il en a marre maintenant du canard enchaîné, parce que bon, il en a fait tellement. Mais c'est tout le monde du dessin qui s'implique dans le monde littéraire, dans le monde politique, dans le monde de l'actualité et tout, le dessin. Et ça existe depuis des siècles. Au 19e siècle, il y avait tous les journaux satiriques et tout. Ce sont les héritiers de comment dire, pas de l'écho des savanes, mais de l'assiette au beurre et d'un tas de canards dans ce genre. Et c'est formidable, quoi. Et c'est la chanson de notre ami... comment il s'appelait déjà, je suis très très fatigué, machin. Le journaliste a dit la vérité, il doit être exécuté, notre ami Guibert, qui a sombré maintenant dans un silence total, que j'ai bien connu, et qui est un parolier et un musicien absolument hors pair. Il a expliqué tout ça aussi, quoi. Donc voilà, c'est le pays de Proust, je dis toujours, et Jean-Paul Sartre et Jean-Luc Godard. Et moi, je ne suis pas de ce milieu. Donc, je suis désolé. Donc, voilà, quoi. Ça, c'est mon petit combat personnel. Et à chaque fois, j'envoie la vanne et je ne lâcherai jamais. Et j'ai quand même essayé de lire Proust, hein, quand même. J'ai essayé. Et je me suis endormi de bonne heure. Je me suis endormi de bonne heure. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pas la peine de prendre du Lexomil. Les fruits, on est tranquille. Donc, voilà. Mais c'est un pays crétin. Il n'y a pas une journée à France Inter où on ne parle pas de Proust. C'est dans le cinéma, il n'y a pas une journée où on ne parle pas de Godard, qui est un type éminemment intelligent, qui est un voyou d'enfer, mais qui a subjugué le cinéma français. Alors que tout ça vient des États-Unis. Ils sont allés aux États-Unis, ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, on peut faire avec quelques francs, quelques sous, quelques dollars, caméra à la main, noir et blanc, on peut faire un film, en dehors de Bénur et les 10 commandements. Et ça vient des États-Unis. Saturnet, on parle très très bien, parce qu'il connaît un des fondateurs de Metal Grand, il connaît très très bien tout ça, quoi. Donc voilà, quoi. Et je cite toujours la phrase de Yann Kounen, « Comment voulez-vous faire de la science-fiction, je le répète, dans un pays qui vénère Proust, Jean-Paul Sartre et Jean-Luc Godard ?» Eh bien, nous y sommes arrivés, parce qu'il y avait un public, et 68 a servi à ça, ça a débloqué les choses, et René Goscinny a été un grand, grand metteur en scène de page, donc ça s'appelle un rédacteur en chef, et Dionnet a été l'inventeur. Le contenu, la philosophie de Métal Hurlant, en dehors de Moebius et de moi, c'était lui l'esprit de Métal Hurlant. Donc on venait tous de pilote, mais Dionnet avait reçu les leçons merveilleuses de Goscinny. Voilà une chose que je ne comprends pas très bien, mais je sais qu'elle a de la valeur. Donc je la passe dans mon journal. Et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire.
Et l'exposition d'aujourd'hui, justement, c'est...
Ben, le vieux con continue à faire chier. c'est tout. C'est la meilleure réponse que je puisse faire. Bon, j'ai eu un accident grave qui m'a bloqué la main pendant 2 ans, mais je me suis enragé comme un malade. Et la mine de plomb, le crayon, c'est le truc le plus ancien du monde. Et on peut s'éclater parce que c'est magnifique. Et donc voilà, quoi.
Okay, c'est d'abord du plaisir. Donc.
Avant tout. Mmh. Encore avoir du plaisir, sauf quand on est blessé. Là, j'en ai encore pour des mois de rééduc, c'est terrifiant. Mais avoir encore du plaisir à faire son boulot, nous sommes vraiment des privilégiés, quoi. C'est extraordinaire. Mmh. Et le crayon, c'est la volupté, c'est le... Je sais pas, une espèce d'évanescence absolument étonnante. C'est une partition musicale et c'est génial. Et c'est une demande d'ailleurs de Jean-Baptiste Barbier et d'Antoine. Et donc voilà, quoi. Et en plus, les prix, parce que je l'ai fait 2 fois avec Jean-Baptiste, comme je commence à avoir des cotes en peinture, en dessin, en sculpture assez importantes, tout le monde ne peut pas avoir 30 000, 40 000 ou je sais pas combien, parfois plus. Je vous rassure, pas tous les jours. Bon, bref, mais ça arrive. Et puis, il y a des gamins qui démarrent, qui ont déjà un petit boulot, une petite société, et qui sont passionnés. Et là, les dessins en noir et blanc sont à 1 000 euros, de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès. Bon, les grandes pièces sont plus chères, ce qui est normal. Et on l'avait fait il y a une dizaine d'années. C'est parce qu'il ne faut pas s'habiller en noir quand on fume. Il faut quand même que j'apprenne ça au bout de 40 ans. Mais bon, il n'y a rien à faire. Bon, bref. Et ça, c'est bien. Moi, j'aime bien, tu vois. Puis après, il y aura une autre expo, il y aura des prix top. Bon, ok, que ça se vende ou pas, Et j'ai gardé ce côté âme d'enfant et ce côté, j'avais 15-16 ans, j'étais amoureux de dessinateur, de bouquin et autres, et je n'avais pas une thune pour me les payer. J'avais la rage. Et donc maintenant, je pense, j'ai pas oublié ça. Quoi.
C'est par souci aussi, du coup, de partager le travail.
Et bien sûr, c'était pour ça. Et j'ai travaillé comme un malade. J'ai fait, comme, comment dire, le peintre que j'adore, qui était Louis Baroche-Foucault. Ah, je suis fatigué, c'est terrible. Donc, merde, putain, en télé, c'est encore pire. Donc là, il faut chanter une chanson et passer à autre chose. Et Gustave Moreau a fait 10-12 000 pièces dans ma vie. Moi, quand je tombe le travail que j'ai fait en mobilier, en cinéma, en dessiné, en série télé et compagnie, je dépasse les 10-12 000 pièces. C'est évident. Parce qu'on a envie de... Nous faisons partie d'une modernité artistique que le Quattrocento avait très bien compris, donc je ne compare pas à Michel-Ange ni à notre ami l'autre. Il faut savoir toucher à tout, parce que chaque domaine enrichit l'autre, et c'est très très important ça.
D'où la thématique exploration.
Oui, voilà, et on peut encore retrouver des choses avec un crayon, un simple crayon. Moi, je travaillais avec des rapidos, avec des trucs, les anciens se font plus, mais bon, on se démerde. Et le trait, bon, sauf ce problème de main que j'ai eu à cause de l'accident, mais c'est une aventure fabuleuse parce que c'est de la partition musicale. Et tout d'un coup, on démarre sur un dessin avec une idée précise, et le dessin se termine avec une autre. Parce que tout d'un coup, le trait t'échappe, et t'es comme un con, et tu dis, mais attends, c'est pas ce que je voulais. Mais c'est quand même pas si mal. Et donc, avoir encore de l'interrogation, de l'exploration et de l'étonnement, puisque le vrai couillon, c'est moi, et le pire critique de mon boulot, c'est moi. Mais là, j'ai pris un plaisir absolument. Si j'avais eu la pêche, j'en faisais 200. Hein. C'est quand même, c'est étonnant, quoi. C'est fabuleux, quoi.
Donc, en fait, c'est que des pièces inédites que vous avez faites récemment.
Exactement.
D'accord. Exactement. Vous n'avez pas fait de sélection particulière?
Non. Simplement, la galerie a voulu, pour des raisons dignes et commerciales, mais les thèmes, les personnages de base, évidemment, c'est du Sloan, c'est du Vuz, bon, qui sont les personnages qui m'accompagnent depuis longtemps. Et j'ai pris plaisir à les faire. Il n'y a pas de problème. Parce que moi, il y a des gens de bande dessinée dont je ne dirai pas le nom et que j'admire, qui sont capables de faire Black et Mortimer. Mais moi, je suis incapable. Si je ne suis pas dans mon assiette personnelle, c'est la catastrophe. Donc, j'ai un univers qui vient de je ne sais où, d'influence et autres. Mais je sais que si on me demande un western, je ne saurais pas. Ou alors, ça va être dur. Ou alors, je prends la moitié du pognon, j'en tire le truc, et après, je me barre avec le reste. Mais ça, c'est pas possible.
Faut pas que je le révèle, on ne pourrait pas le faire en vrai après.
Là, ça se fait pas, quoi. Donc, c'est interdit. C'est con, hein. C'est vraiment très con, quoi. Donc, je dis, André Julliard m'a dit, bon, j'ai adoré faire Black et Mortimer, et maintenant, je fatigue, et il a fait les plus beaux, d'ailleurs, parce que c'est extraordinaire. Et il me dit, maintenant, je fais les personnages, quelqu'un d'autre fait les décors. C'est un fabuleux dessinateur, quoi. Et à un moment donné, on craque. Moi, je peux pas. Moebius a pu faire 13, moi, on me donne 13 à faire. Je suis comme Lovecraft, l'écrivain qui a commencé, on lui a filé des westerns. Les malheureux, quand ils ont vu des tests de Lovecraft sur des westerns, ils se sont dit, bon, ben, ou c'est la tôle, ou c'est la psychiatrie, ou c'est autre chose. Donc, on va lui laisser faire ce qu'il veut. Et puis, il est devenu un des plus grands auteurs de fantastique, où on ne sait pas vraiment comment le classer, d'ailleurs. Tu vois, bon, mais un des personnages les plus étonnants, bien que c'était sur le plan humain quelqu'un de pas très correct, un peu antisémite, un peu malade, un peu cinglé. Bon, ça arrive, mais c'est un modèle, enfin, c'est étonnant. Il n'est pas humain, quoi. Alors, des fois, je me demande si je suis pas humain, et quand je bois un coup de rouge, je me dis oui, je suis vraiment humain, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, je suis désolé, je suis très con. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai mes marques, comme dit l'autre. Donc, voilà, quoi.
Et vous, vous parlez de Lovecraft, de votre univers, justement, comment vous vous positionnez dans le paysage de la BD? Quelle est votre...
La position, c'est pas moi qui l'ai donnée. La position, c'est les historiens. Je le répète, ils ont dit, il y a la Vendrouillée et la Pesouillée. Bon, très bien. Et moi, je m'en fous. Je l'ai fait d'une façon naturelle. Pour moi, c'était des écrans de cinéma. Et je me disais, on peut raconter une histoire sans uniquement additionner une image l'une à côté de l'autre. Mais le plus beau, c'est que s'il y a un fou, un malade mental et un cinglé qui adore la bande dessinée franco-belge, c'est vraiment moi. Bon, mes maîtres, c'est Franquin, c'est Hergé, c'est Tillieu, c'est tous ces gens, c'est fantastique. Donc je suis né avec eux, je suis né avec la bande dessinée d'avant-guerre, Robinson qui était traduit, bon, je suis né en 44, c'était avant, et j'ai racheté des éditions anciennes, et j'ai toujours aimé Alex Raymond, Flash Gordon, c'est un dessin d'une élégance, d'une qualité absolument fabuleuse. Hogarth, Tarzan, ce sont des choses qui nous ont forgés. Franquin est un dessinateur hors pair, c'est un immense artiste, c'est lui aussi. Mais moi j'avais mon truc dans ma tête et je voyais les choses différemment. Et je pensais surtout une chose, que dans la France post-gaulienne, De Gaulle étant grandiose à une époque et puis chiant comme la pluie à la fin, 68 est arrivé, on a commencé à pouvoir péter à l'air sans qu'on vous mette des tampax, il y en avait marre, on a explosé, nous avons explosé, et je me suis dit, je ne peux pas être le seul à penser la même chose. À l'époque, il n'y avait pas le net, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux et tout le bordel. Et la première histoire, il y a eu une avalanche de lettres colossales. Et j'étais très heureux parce que je me suis dit, bon, je ne suis pas le seul fou. Il y a un nouveau langage, il y a un nouveau regard que le cinéma s'est emparé, dont le cinéma s'est emparé, et à juste titre, parce que tout ça, on n'invente rien. On est tous mélangés comme les musiciens, et tout ça fait partie de la génération des années 70, rock'n'roll, musique, bande dessinée, et puis le reste, la dope et tout le bordel, nous avons inventé quelque chose. Sauf qu'on nous a construit comme étant des immortels. Eh bien non, nous ne sommes pas immortels parce que beaucoup tombent et beaucoup retomberont encore beaucoup. Bon, enfin bon, ça c'est une autre affaire, quoi. Donc voilà, quoi.
Et alors, j'ai vu un entretien de vous qui m'a bien fait rire, dans lequel vous dites que...
Oh, ça ne va pas être le premier.
J'ai beaucoup aimé l'expression que vous avez employée pour décrire votre méthode de travail. Vous disiez que vous étiez un gros poulpe qui monte et qui descend. Est-ce que... Est-ce que là, vous avez des projets à venir, et est-ce que le poulpe est en train de monter?
Le poulpe est peut-être le successeur de l'espèce humaine dans le futur, certains scientifiques le disent d'ailleurs d'une façon très, très, très sérieuse, mais j'ai cette possibilité, mais seul le temps me la donnera, et puis peut-être se calmer un peu sur certaines choses, mais j'ai toujours des projets pour le futur. Là, j'ai travaillé, j'ai grandi avec l'opéra. Nous avons fait deux fois avec Cosmo et Morgane Productions les Corrigis d'Orange, RQM de Verdi, le dernier, Carmina Burana, tout ça. J'ai travaillé 4 ans avec Rolf Liebermann à l'Opéra de Paris sur un projet de Wagner, la tétralogie, que nous avons fait ensuite en CD-ROM. J'ai toujours un projet pour demain. Alors évidemment, on ne sait pas comment... Alors je dis toujours, donnez-nous 20 ans de plus. Pas plus. Et 20 ans qui sont pas gâteux, 20 ans de créativité. Et là, j'ai 4 ou 5 ou 6 ou 7 trucs en route qui sont énormes. Se feront-ils ou pas, je n'en sais rien. Serais-je capable de les faire aussi? Ça se joue. Mais je suis un bâtisseur à ma manière, quoi. C'est le plaisir de pouvoir inventer des mondes et de créer des mondes. Et les Corrigis d'Orange ont été un succès absolument colossal. Donc voilà, quoi, c'est ça qui est magique. Bon, moi, je ne suis pas Astérix, je ne vends pas 10 millions d'exemplaires, mais comme je le dis toujours, je suis un enfant d'Astérix, je le répète, sans Goscinny, je n'existerais pas. Et puis après, je me suis envolé, puis nous avons fait Métal Hurlant, et tout ça, et donc voilà, quoi, c'est... On était un groupe de rock qui se tapait sur la gueule du matin au soir, ce qui est normal avec les narines pleines de produits. Oui, bon bref. Et donc voilà quoi. Donc je crois que c'est le Quattrocento, comment dire, Vinci ou Léonard, semble comparer à ces monstres. Mais à l'époque, ils peignaient, ils sculptaient, ils faisaient de l'architecture et des jardins. Grâce à Benjamin de Rothschild, j'ai fait de la peinture, oui. J'ai, avec un architecte, Bruno Legrand, construit des choses. J'ai créé des jardins. C'est fabuleux. Quand on donne les moyens, quand on a le mécène qui vous dit, voilà, j'ai une villa, notamment à Saint-Barth, là je m'inquiète, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais si je sais, je ne sais pas. Bon, et j'ai fait une bodega aux communautés en Argentine. Et on a fait un travail au pied des Andes absolument prodigieux. Et c'est. J'ai travaillé avec un architecte, donc à chaque fois on découvre autre chose. Quand je dis qu'est-ce qui se passe, c'est les armées. En fait, c'est la police. C'est la police. J'ai rien à déclarer. Hein. J'ai rien à déclarer. Tout le temps en caisse. Et au pied de la Cordisaille, j'ai fait des sols absolument somptueux, j'ai fait des plafonds, des délires. C'est de trouver des gens qui vous aiment et qui ont les moyens, qui vous donnent tout d'un coup la possibilité de ces moyens. Mm-hmm. Et puis surtout, quand on rencontre un ébéniste, je le dis toujours, et j'en ai rencontré beaucoup, et moi j'avais mes idées de mobilier, et il me disait d'une façon très honnête et très simple, elle est belle ta chaise, simplement elle ne tient pas debout. Mm-hmm. Ah bon ? Alors on écoute, on apprend. Et à une époque, j'avais une palette de bois précieux, bois de rose, comment dire, c'est brano, tout ce qu'on peut dire, macassar, tout ça, tout d'un coup, ma palette n'était plus des tubes de peinture, mais était devenue des essences de bois. Et j'ai appris les volumes, j'ai appris l'architecture et tout ça, c'est formidable. Mais je reste avant tout, il s'agit, tiens, parce que des fois on me dit, ça a démarré. Ah, maintenant vous faites de la peinture, de la sculpture, c'est bien. Vous êtes donc devenu un artiste. Je me fous de boule. Je dis non, j'attaque des techniques différentes, mais avant tout, je suis un auteur de bande dessinée. Et là, j'ai le projet de Dante. Bon, je verrai quand je vais aller mieux. Le travail de bande dessinée est un travail, je le dis toujours, de bénédictin et de masochiste complet. Pour être dingue, pour faire de la BD, parce que c'est un truc d'enfer. Et en même temps, nous tous, on aime ça, il n'y a rien à faire. On en chie. Il y a des jours où on a la haine. Pourquoi j'ai signé ce putain de contrat avec cet album de merde, j'en ai ras-tu. Et puis au bout de 10 minutes, quand on n'a pas commencé à travailler, on a tout d'un coup un manque et on voit un coup et on se remet au boulot. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Donc tu vois, c'est ça le enfin, vous voyez, c'est ça le truc. Et donc, je veux le faire. Et là, je peux pas, faut que j'attende un an ou deux pour récupérer d'un accident stupide, tomber dans un escalier, une corde vocale niquée, la totale. Donc, il est conseillé de ne pas tomber dans un escalier. Notre ami Ligeur à Vienne, hein, l'a fait les frais, et il paraît que dans l'histoire de l'art, il n'y en a plus d'un. Hein. Bah, évidemment, quand on est un petit peu bon, bref, ça peut arriver. Quoi.
Alors, j'ai une dernière question, après je vous libère. Vous avez un goût pour les techniques dans tous les domaines. Est-ce que vous êtes intéressé par les nouvelles techniques numériques, les dessins?
C'est non seulement on était quoi? Dans les années 79, 80, tu vois, c'est pas d'hier. Enfin, vous voyez, pardon. On s'en fout. Quand j'ai commencé à voir sur le. Je l'ai raconté mille fois, mais je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie. C'était Science et Vie, j'ai vu la goutte d'eau avec ce qu'on appelait le fil de fer. Et une goutte d'eau filmée sur. Alors là, je me suis dit, voilà, Tex Avery, j'adore. Disney, j'adore. Les animés japonais, j'aime aussi, pas tous. Mais là, nous avons un nouvel outil qui permet de tourner autour de l'image. Le dessin animé classique, c'est zoom avant, zoom arrière, latéral gauche, latéral droit. Là, on peut tourner. Donc, toutes ces technologies modernes qui nous arrivent sont des outils de travail merveilleux. Spielberg, avec Jurassic Park, l'a démontré d'une façon magnifique. C'est de plus en plus en évolution, mais c'est un outil. sublissime, mais avant tout, il faut un bon scénario, un bon casting, une belle histoire. Parce que sinon, il y a 20 ans, le ride sur la planète Mars nous épatait tous. Aujourd'hui, on s'endort. Ok, donc c'est un outil sublissime, je m'en suis servi. On a fait Excalibur avec, Robert Réa Productions, c'était Ellipse Productions, la première série qui est vendue dans le monde entier en images de synthèse, non pas Toy Story, mais très graphique à la Rembrandt avec des volumes, des lumières et compagnie, les Wagner aussi, instrument de travail merveilleux. À utiliser, c'est formidable, mais il faut quelque chose d'autre en plus. Mais la gestion de foule, qui est le logiciel de gestion de foule, qui doit avoir, je pense maintenant, une quinzaine d'années, on met 300 mètres sur un premier rang, et après on se retrouve avec une armée de 40 000 bonhommes qui attaquent le château. C'est le rêve de tout, c'est le rêve de King Kong, c'est le rêve de Cocteau, c'est le rêve de Jean-Christophe Averty et de Méliès. C'est la magie du cinéma, c'est extraordinaire. Quand j'ai fait le clip de Scheller, j'ai mis le jeune garçon sur le travelling le plus basique du monde, pas la caméra ni le rail, on l'a foutu sur un plateau à roulettes et on l'a tiré à la main. Et ça marche. C'est l'art sublime du mensonge. C'est la beauté des choses. Donc toute technologie actuelle qui arrive est un bonheur absolu. Mais il ne faut pas sacrifier l'histoire à cela. Parce que là, on s'emmerde. Parce qu'à un moment donné, je l'ai dit, il y a 10 ans, ça nous épatait, maintenant, ça ne nous épate plus. Donc il faut un plus. Le numérique maintenant, dans certaines chaînes de télé, il n'y a plus de profondeur de champ, les dents sont blanches à éclater, les yeux vous brillent, vous pénètrent la tête, et le mec est 4 mètres derrière, il a les yeux aussi brillants que le mec qui est devant. Eh bien non, parce qu'il y a un visuel dans le cinéma qui est proche du cerveau humain, et il faut la profondeur de champ, c'est tout. Mais en même temps, quelle merveille, quelle merveille. Et le rêve des fous d'Hollywood, j'espère qu'ils y arriveront, et en même temps ça fout les jetons. Le rêve, c'est le rame, et c'est toi qui conduis le char de Bénur. Tu vois, chez toi, dans ton truc. Alors là, moi je veux bien, pour que je me charge un peu, mais c'est fabuleux, quoi. Donc voilà. Mais moi je considère ça comme un bonus, mais à la, au service d'une histoire. Donc voilà.
Bah, c'est une super jolie conclusion.
Bah oui, oui, oui.
Et bon, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour.
Tes conneries, on est là pour ça. De toute façon, tout le monde nous aura oublié. On sera tous pompiers à Marrakech. On mangera des merguez. Ça sera parfait. Absolument, c'est bon.